Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Malgré le couvre-feu, les forces de l'ordre s'attendent à des débordements pour le réveillon du Nouvel An. Nous détaillerons le dispositif policier.
Un réveillon sans boîte de nuit, elles sont fermées depuis mars à cause de l'épidémie de Covid-19 et certaines ont déjà mis la clé sous la porte.
Mais ce réveillon ne se fera pas sans musique, les artistes s'adaptent, exemple avec Jean-Michel Jarre.
Le président de la République aura un message de vérité et de transparence ce soir, prévient le porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français à 20h.
Nous reviendrons également sur le Brexit. Le Royaume-Uni quitte véritablement l'Union Européenne ce soir à minuit et entame une nouvelle page de son histoire.
Enfin, nous irons au Congrès américain où Donald Trump risque de voir son veto au budget de la défense rejeté.
Et après ce journal, dans son billet politique, Stéphane Robert dressera l'état de santé d'un parti politique français ce matin, Les Républicains. Pas d'exception ce soir pour le réveillon. Contrairement au 24 décembre, le couvre-feu reste en vigueur. Les déplacements après 20h devront être justifiés et les fêtes sont fortement déconseillées par les autorités. Gérald Darmanin a donné sa consigne au préfet que les forces de l'ordre luttent en priorité contre les rassemblements non autorisés et les violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur craint des difficultés supplémentaires à cause de la crise sanitaire et de la multiplication des fêtes clandestines. Adrien Toffoli.
Cette année, pour le passage en 2021, le ministère de l'Intérieur annonce la mobilisation exceptionnelle de 100 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire. En réalité, c'est autant que l'année dernière pour faire face aux situations de violences urbaines. Et c'est même moins qu'en 2018, quand l'exécutif craignait des débordements de gilets jaunes. 148 000 agents avaient alors été mobilisés. Pourtant, ce 31 décembre, peu importe le couvre-feu, les syndicats de police disent déjà s'attendre, quoi qu'il arrive, aux habituels feux de poubelle et de voitures, accompagnés des guet-apens de pompiers qui vont avec. La menace terroriste reste une préoccupation et vient désormais s'ajouter à la liste le respect du couvre-feu et la lutte contre les fêtes clandestines, avec pour consigne de verbaliser les participants et d'identifier les organisateurs. Les forces de l'ordre ne pourront pas surveiller chaque foyer pour s'assurer qu'aucune fête en petit comité n'est organisée. Comme le suggère Gérald Darmanin, les interventions se feront donc en fonction des signalements de voisinage pour tapage, comme cela s'est passé à Joinville-le-Pont le mois dernier quand la police est intervenue dans une fête réunissant 300 personnes. Mais aussi grâce à une surveillance des réseaux sociaux par la préfecture de police en se focalisant sur les grands rassemblements avec risques importants de contamination et de foyers épidémiques. Sur le papier, les forces de l'ordre seront assez nombreuses sur le terrain pour jongler entre les interventions et les contrôles dans les centres-villes et les quartiers dits sensibles. Les syndicats en appellent tout de même à la responsabilité de chacun pour ne pas avoir à prioriser certaines situations d'urgence à d'autres.
Être responsable pour le réveillon et tant pis pour la fête. La nuit du 31 décembre au 1er janvier est normalement l'une des plus lucratives pour les discothèques. Mais depuis le 16 mars, les portes sont fermées. Silence à l'intérieur, plus de musique, plus d'insouciance. À la place, beaucoup d'inquiétudes. Malgré les aides publiques, la crise sanitaire a fait des dégâts, affirme le principal syndicat de la profession. Sur les 1600 boîtes de nuit existant avant le confinement, une centaine ont fermé leurs portes et 300 sont en redressement judiciaire. Les gérants sont toujours dans le flou, Thomas Giraudeau.
Heureusement que Sébastien Mallet avait mis de côté 9 ans à la tête de la suite, une des plus grandes discothèques de Périgueux en Dordogne. Sa trésorerie et les mesures de chômage partiel notamment lui ont permis de résister tant bien que mal à la crise et encore les dettes s'accumulent.
Une société comme nous, c'est entre 8 500 et 10 000 euros tous les mois de dépenses. Quand vous touchez 3 500 en moyenne d'aide, ça va pas. On n'a aucun revenu, moi et ma femme, depuis mars, sachant qu'on est gérant de la société. Il y a tout ce qui est société annexe aussi, les sociétés de sécu, tous nos distributeurs en activité réduite. Tous nos DJ, eux, sont pareils auto-entrepreneurs ou à leur compte, donc ils, pareil, n'ont pas de chômage. On est vraiment impacté énormément, quoi.
À Périgueux, 2 discothèques ont déjà dû fermer définitivement. Sébastien Mallet, lui, a pu contracter en juin un PGE, un prêt garanti par l'État, déjà entièrement consommé. D'autres ont essuyé des refus. Peu de cas de ce type nous sont remontés, nous dit la Fédération bancaire française. Et ces entreprises étaient déjà en difficulté avant la crise sanitaire. Christian Jouny, du syndicat des discothèques, est lui beaucoup plus alarmiste.
Le prêt garanti par l'État, 45% d'entre nous n'ont pas pu l'obtenir, c'est complètement anormal. Non seulement nous n'avons pas d'horizon, pas de prospective, le ministère de la Santé nous indique, et dans l'éventualité d'une réouverture, que nous réduirions notre capacité d'accueil par 4, voire par 5. Ça sous-entend que le seuil de rentabilité ne pourrait pas être atteint.
Et les patrons de discothèques espèrent une réouverture avec des conditions moins drastiques, au mieux en juin prochain.
En attendant, leur réouverture est celle des salles de concert qui semble peu probable début janvier. Des artistes s'arrangent pour faire parvenir la musique jusque dans nos salons. David Guetta diffusera un concert sans public enregistré devant la pyramide du Louvre. Quant à Jean-Michel Jarre, il a imaginé un spectacle électro en réalité virtuelle dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, retransmis ce soir en direct et gratuitement sur le site de la ville et les réseaux sociaux. Ou comment innover en temps de pandémie, Anne Lamotte.
23h25 ce soir, Jean-Michel Jarre sera devant ses claviers, ses machines, au studio Gabriel à Paris. Sur lui, une combinaison avec capteurs, autour de lui des caméras, et au même moment, sur l'écran des téléspectateurs, c'est l'avatar du musicien qui jouera dans l'allée centrale de Notre-Dame, virtuellement reconstituée. Ceux équipés de casques de réalité virtuelle pourront assister au concert comme s'ils y étaient, danser même devant l'artiste. Une prouesse technologique, 150 personnes ont travaillé sur le projet, explique Jean-Michel Jarre, ce passionné de son qui précise que l'acoustique de la cathédrale a elle aussi été recréée. Le tout dans un seul but, insiste-t-il, non pas celui de la démesure, ce dont on l'accuse à tort, dit-il, trop souvent, mais de l'avant-garde.
La réalité virtuelle, la réalité augmentée, sont pour moi en fait un petit peu ce que le cinéma était au début, à l'époque des Frères Lumière, qui était considéré souvent comme une simple curiosité, et où les gens de théâtre se disaient finalement, c'est ces gens qui s'agitent sur un drap blanc qu'on projette souvent dans les cirques avec une lanterne magique, ils sont tous sauf des acteurs. Les acteurs, un véritable acteur, c'est celui qui partage son art avec un public qui est physiquement présent devant lui. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. La réalité virtuelle aujourd'hui, pour moi, est un petit peu la même situation. Moi, si j'ai à définir ce projet aujourd'hui, c'est vrai qu'il est placé sous le signe de l'innovation, mais de l'innovation au service d'une certaine poésie qu'on peut aimer ou pas, mais en tout cas, c'est ça l'idée.
L'idée d'un rêve éveillé, conclut Jean-Michel Jarre. Le titre de ce concert de 45 minutes, Welcome to the Other Side, bienvenue de l'autre côté.
Avant le concert, les vœux d'Emmanuel Macron, le président de la République s'exprimera à 20h, allocution qui sera retransmise en direct sur notre antenne. Que peut-on souhaiter, espérer en 2021 alors que la pandémie n'est pas terminée et qu'elle a fait de nombreux dégâts, notamment économiques, dans différents secteurs? Le chef de l'État devrait rester traditionnel dans la forme, un quart d'heure de prise de parole environ, mais pourrait être plus novateur dans le ton car cette année ne ressemble à aucune autre, Sophie Delpont.
Moins de verticalité, plus de proximité. Voilà pour la tonalité générale qu'Emmanuel Macron devrait donner à ses vœux, selon un conseiller qui pointe le souci d'empathie souhaité par le chef de l'État pour cette allocution. Avec un appel à l'unité, comme l'année dernière, mais dans un registre mettant davantage en avant le côté humain dans le contexte de pandémie. L'objectif majeur sera de tracer un cap de sortie de crise, montrer qu'une stratégie efficace est à présent définie, après les nombreuses critiques, notamment sur la gestion des masques au printemps. Pour cela, Emmanuel Macron devrait mettre l'accent sur la stratégie du vaccin pour alléger la pression sur les services de réanimation en espérant un retour progressif à la vie normale. Aucune annonce envers le monde de la culture, les cafés, bars et restaurants n'est prévue ce soir. Même si le chef de l'État souhaite montrer dans ses vœux que l'action ne s'est pas arrêtée malgré la crise, insiste un conseiller, les vœux de l'an dernier consacrés en partie à la réforme des retraites semblent bien loin. C'est avant tout un message d'espoir et de volontarisme que devrait délivrer Emmanuel Macron pour tenter de tourner la page d'une année 2020 plombée par la crise sanitaire.
Allocution donc du chef de l'État à 20h à écouter sur France Culture, suivie d'une émission spéciale avec les analyses de la rédaction et de notre invité, le politologue Olivier Roucan. Son Premier ministre sera lui au Tchad. Jean Castex y passera 2 jours jusqu'à demain. Il vient apporter son soutien aux troupes françaises de l'opération Barkhane, endeuillées après la mort lundi de 3 jeunes militaires au Mali. Thomas Gassiou, député LREM du Rhône, est allé à plusieurs reprises au Sahel. Cette fois-ci, le membre de la commission de défense à l'Assemblée ne sera pas du voyage et il approuve la visite de Jean Castex.
Dans la Ve République, le Premier ministre a également des prérogatives importantes en matière de défense, notamment sur l'interministérialité. C'est tout à fait positif que le Premier ministre aille sur place, d'autant plus que c'est un nouveau Premier ministre qui doit s'imprégner encore davantage des enjeux de défense et donc sa présence sera particulièrement appréciée par l'ensemble des forces sur place. En 2021, le Tchad va jouer un rôle encore plus important au Sahel, puisque plusieurs des postes clés, notamment au sein du G5 Sahel, seront assurés par des Tchadiens. Parmi les armées sahéliennes, l'armée tchadienne occupe une place importante. Les Tchadiens ont pris en compte les questions de sécurité depuis déjà un certain temps. Eux-mêmes sont confrontés au djihadisme sur la région du lac Tchad. La France, dont l'aide est sollicitée au Sahel, a besoin de l'ensemble de ses partenaires pour tenter collectivement d'être à la hauteur des défis actuels, et notamment les Tchadiens, effectivement, qui ont des capacités tactiques singulières.
Le député Thomas Gassiou, propos recueillis par Nathalie Hernandez.
France Culture, il est 8h10, la suite du journal de Margot Delpierre. Et le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne ce soir à minuit. La rupture, cette fois, est effective.
Le Brexit était officiel depuis près d'un an, mais avait laissé place à une période de transition qui touche à sa fin. L'accord gérant leurs futures relations commerciales a été signé hier par les dirigeants des deux parties, Londres d'un côté, Bruxelles de l'autre. La situation à la frontière risque de se compliquer à partir de demain. 10 000 camions circulent chaque jour entre l'UE et le Royaume-Uni. L'accord permet d'éviter droits de douane et quotas, mais il faudra se soumettre à des contrôles sanitaires et remplir des formalités douanières. Les routiers craignent un scénario catastrophe similaire à celui qu'ils ont vécu pendant Noël. Dans le Kent, Louise Baudet.
Samuel est polonais. Il a livré avant-hier ses fenêtres à Londres et reprend ce matin le ferry pour Calais. Pas de formalité pour lui, pas encore, mais un test Covid sur l'aéroport désaffecté de Manston.
Ils m'ont donné un café, un sandwich. Ça a été rapide, un petit quart d'heure pour avoir le résultat.
Rien à voir avec le chaos de la semaine dernière, dont témoignent encore les sacs d'ordures au bord de l'autoroute. Répétition générale du Big Bang du 1er janvier, certainement pas, veut croire l'élu local conservateur Paul Bartlett.
Les formalités administratives sont beaucoup moins lourdes que le test Covid, donc je ne m'attends pas à de fortes perturbations. Très vite, les transporteurs vont comprendre que les règles s'appliquent à tous.
Le temps presse, clame la com gouvernementale sur Internet, mais nous ne sommes pas prêts, répond sur les plateaux télé le représentant des transporteurs routiers Duncan Buchanan.
C'est un changement énorme, complètement révolutionnaire dans la façon de gérer les transports routiers. Il va y avoir des gens qui vont se tromper. C'est un énorme travail.
Permis d'accès au comté du Kent, zone de délestage, centre de dépistage sont-ils vraiment opérationnels? Routiers, entreprises, habitants, tout le monde retient son souffle.
Louise Baudet avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Washington veut imposer des droits de douane supplémentaires sur des produits européens en représailles à ceux imposés par l'UE. Décision prise 3 semaines avant l'arrivée du président élu Joe Biden à la Maison-Blanche. Des vins et des cognacs sont visés. Donald Trump qui par ailleurs est furieux contre les élus de son propre parti républicain. Le président sortant des États-Unis s'inquiète d'un rejet de son veto au Congrès à propos du budget de la défense. Ce serait une première depuis qu'il est en poste. Selon lui, le texte est trop favorable à la Chine et il offrirait la possibilité de renommer des bases militaires qui honorent des généraux confédérés. Loïc Loury, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Les élus, démocrates comme républicains, ne l'entendent pas de cette oreille et c'est un moment rare d'unité.
Non, effectivement, un premier vote a eu lieu lundi à la Chambre des représentants. Résultat, 322 voix contre 87 pour renverser le veto de Donald Trump et surtout avec l'appui d'un nombre important de républicains. Alors pour le président, c'est un camouflet terrible à 3 semaines de la fin de sa présidence, en attendant bien sûr la confirmation de cette gifle par le Sénat. Sauf que ce second vote, eh bien lui, tarde à être organisé. Il pourrait intervenir samedi, voire dimanche matin, quelques heures avant l'installation d'un nouveau Congrès élu en novembre. Raison à cela, des délais imposés par l'opposition qui tente de conditionner ce vote à l'augmentation du montant des chèques envoyés aux Américains dans le cadre d'un plan de relance, des chèques qu'ils souhaitent faire passer de 600 à 2000 dollars.
Et c'est exactement ce que réclame aussi Donald Trump.
Oui, en d'autres termes, Donald Trump et les démocrates sont d'accord et cela rend la situation intenable pour les républicains. Leur patron au Sénat, Mitch McConnell, hier affirmait que cette augmentation ne serait pas mise au vote, elle coûte trop cher et sur ce point, eh bien les conservateurs ont longtemps été au diapason. Mais cela a changé depuis que Donald Trump pousse comme les démocrates pour des chèques de 2000 dollars. De nombreux républicains ont alors changé leur fusil d'épaule parce que contredire le président, c'est s'aliéner ses électeurs pour de futures échéances. C'est le cas de David Perdue et de Kelly Loeffler qui remettent en jeu leur siège de sénateur le 5 janvier en Géorgie, une élection cruciale qui va déterminer de quel côté va pencher le Sénat. Alignés sur leur président et du même coup sur leurs adversaires démocrates, un comble, eh bien ils sont aussi bloqués à Washington sans pouvoir faire campagne le temps de sortir de cette impasse politique.
Loïc Loury, un 31 décembre gris et pluvieux en France. Météo France ne prévoit pas plus de 3 degrés à Strasbourg cet après-midi, 5 à Paris et Brest, 6 degrés à Lyon, 9 à Bordeaux et jusqu'à 11 degrés à Marseille, Hervé Gardette.
Merci Margot Delpierre. Au programme des matins de France Culture jusqu'à 9h, programme copieux avec Hervé Letellier qui nous fera découvrir une nouvelle ville mystérieuse. Géraldine Mosna-Savoie poursuivra sa rétrospective personnelle 2020 dans son carnet de philo. Nous appellerons le directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, pour voir comment il envisage l'année cinéma 2021. Dans 5 minutes, le cofondateur des Arts Occuptibles, Jean-Daniel Beauvallet, nous donnera des nouvelles du Royaume-Uni et de sa musique. Et puis dans un instant, le billet politique de Stéphane Robert.